Donc, comme j'avais dit dans un cours précédent, étant donné que la prière chez nous est assez rallongée, j'aurais du mal à chaque fois à être là 18h pile. Mais on fera au mieux, Inch'Allah ta'ala. Pas. On expliquera, normalement c'est prévu dans ce manuel, hein. C'est pour ça que c'est important avant de rentrer dans un livre de fiqh, c'est important d'expliquer tout ce qu'on va expliquer là, pré-entrer dans la matière. Parce qu'il y a tellement de choses à savoir, des fawaïd, des choses importantes à savoir, comme par exemple, après on va commencer à parler des quatre imams, pourquoi ils ont des avis différents, pourquoi ils ont divergé. Parce que chacun ne suivait pas la même école. Chaque madhahib descend, si vous préférez, chaque école des quatre imams, elle descend d'un compagnon. Ensuite, ce sont des compagnons qui sont partis dans des endroits différents. Et comme par exemple, vous prenez Abu Hanifa qui s'est complètement décalé. Il s'est complètement décalé et son école, elle a commencé en Irak. C'est ça qu'on appelle le Koufa, Koufia, en Irak. Et cette école, c'est un exemple que je vous donne. Et cette école, elle avait pour particularité d'avoir comme caractéristique de beaucoup utiliser le point de vue, les points de vue. Alors, c'est pour ça que vous verrez souvent, Wallahu alam, hein, j'ai vu beaucoup ça. J'ai vu beaucoup ça, donc je ne sais pas si je peux l'affirmer dans l'absolu, mais j'ai vu beaucoup ça dans le fiqh. Abu Hanifa, il est souvent en contradiction avec la majorité. C'est-à-dire que les trois autres imams, ils sont d'accord sur une mas'ala. C'est ça quand vous entendez al-jumhur de la majorité, c'est qu'il y en a trois, ils sont d'accord, il y en a un, il n'est pas d'accord. C'est ça la majorité. C'est trois contre un. Tamam? Donc, vous voyez qu'il y a souvent la majorité. Et souvent, vous trouverez Abu Hanifa un peu décalé. Donc, vous aviez également. On va voir tout ça en détail. C'est pour ça que c'est très important. Il y a des gens, ils rentrent directement dans des livres de fiqh, Bulugh al-Maram. On aurait pu le faire, hein, mais moi, je vais vous donner un enseignement complet. Bulugh al-Maram, Zad al-Mustaqnar, Amdat al-Ahkam, ce que vous voulez. Mais il y a des choses à connaître dans le fiqh avant. Des choses importantes, on étudie les quatre imams, leurs particularités, quels sont leurs élèves les plus connus. Par exemple, si je vous dis l'école de Mecca, c'était qui à la base? L'école de Médine, c'était qui a fondé l'école de Médine, qui est devenue après l'école de l'imam Malik, etc., etc. Il faut connaître ces choses-là. La biographie de l'imam Malik, on ne sait même pas c'est qui l'imam Malik. Quelles étaient ses particularités, etc. Des règles dans le fiqh qu'il faut connaître. Et justement, avant de partir dans cette explication que je viens de vous donner, j'avais, Mashallah, Ahsant Mohamed, tout à fait. C'est pour ça qu'on a appelé l'imam Mohamed nous dit le fiqh malikite est basé sur la coutume médinoise, par exemple, Malik. Tout à fait. Justement, c'est pour ça que l'imam Malik, il a été nommé imam Darul Hijra. Imam Darul Hijra. Et c'est où Darul Hijra? La demeure de l'émigration, c'était où? Ben, c'était Médine. Vous voyez? C'est des choses qu'il faut savoir. Il y a plein de choses. Donc, de ce fait, nous, notre base de l'enseignement ici à l'Institut, ça sera un enseignement selon l'école Hanbalite de l'imam Ahmed. On est d'accord. Mais il faut savoir que ça ne veut pas dire qu'on ne va pas, au début, avant d'entrer dans un ouvrage, étudier un ouvrage, qu'on ne va pas expliquer quand même certaines, comme c'est prévu ici dans le manuel, d'expliquer certaines choses concernant les quatre imams, etc. C'est important. C'est important. Et là, la règle que je voulais vous donner, donc vous voyez, il y a plein, même des règles, il y a plein de règles à connaître avant d'entrer dans le fiqh comme ça. On peut les apprendre sur le tas, comme nous dit Cheikh Al-Uthaymeen. Alors, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, vous êtes pas, on n'est pas obligé d'apprendre usul al-fiqh. Il y a une divergence sur ça. Entre les savants, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, on n'est pas obligé d'apprendre usul al-fiqh parce que quand tu vas faire du fiqh, tu vas apprendre les règles de usul al-fiqh. Sur le tas. Vous voyez? C'est comme quelqu'un, comme s'il vous disait, prends pas des leçons de conduite ou de pilotage théorique, t'inquiète pas, tu vas monter dans l'engin et tu vas apprendre directement. T'inquiète pas. Mais il y a d'autres savants, ils disent non, le usul fiqh, c'est une obligation d'apprendre usul fiqh pour étudier le fiqh. Pour étudier le fiqh. Non, pour comprendre le fiqh. Donc voilà, vous êtes au courant, il y a une divergence. Alors, on y arrive, cette règle, cette faïda que je veux vous donner depuis un petit moment, c'est que le fiqh, il faut savoir une chose. Le fiqh, il est de deux catégories. Vous avez al-fiqh al-akbar. Vous allez souvent entendre ça dans les durus. Les ulama utilisent beaucoup ces terminologies. Vous avez al-fiqh al-akbar et vous avez al-fiqh al-asrar. Alors, pour traduire, c'est-à-dire la jurisprudence, la grande jurisprudence, et vous avez la petite jurisprudence. Alors, c'est pareil, hein, y a une divergence, il y en a qui vous diront non, mais nous, on part de ce principe-là. La grande jurisprudence et la petite. Alors, c'est simple. Hein. Al-fiqh al-akbar, la grande jurisprudence, c'est quoi? C'est le tawhid. Aqida, tawhid. Et la petite jurisprudence, fiqh al-asrar, c'est quoi? C'est le fiqh qu'on est en train d'étudier et la matière dont, où on est aujourd'hui. Fiqh al-ibadat. Ça va? Donc, la petite jurisprudence, elle est une branche de la grande jurisprudence. Donc, ça, c'est une faïda assez importante à connaître. Donc, voilà. Tayyib. Alors, je pense pour le questionnement, les questions... On va se contenter de ça, Inch'Allah, aujourd'hui. Sinon, on va pas entrer dans notre cours. Donc, je voulais dire une petite faïda pour les élèves. Hein. Je sais que tout le monde sait ça. Mais des fois, comme le dit Allah Ta'ala, « Dhikr tanfa' al-mu'minin », le rappel profite aux croyants. Accrochez-vous. Accrochez-vous, on l'a déjà dit. Le talib al-ilm, vous savez... que ma référence à moi, mon meilleur exemple, parce que c'est vraiment une expérience inoubliable, hein, inoubliable jusqu'à la fin, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, c'est l'Institut de Sheikh Mokbel. On a eu un enseignement, mais dans tous les sens du terme, hein, pas uniquement tu viens, tu t'assieds, on te fait des doulos, il y avait un savant. Le contexte, il était très, très, très précaire. On a appris dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines. Pas uniquement dans le domaine scientifique, mais dans beaucoup d'autres domaines. Et ce que je voulais dire, justement, par rapport à ce point que je voudrais vous éclaircir ici en vous disant de patienter, de faire très attention. Écoutez bien cette faïda que je vais vous donner. J'ai dû déjà sûrement... J'ai dû déjà vous la mentionner, cette faïda, mais elle est très importante. Sheikh Mokbel, rahimahullah, il disait concernant son institut, hein, son propre institut, Merkez Darul Hadith, qui s'appelait la maison du Hadith, il était spécialiste dans le Hadith. C'était un muhadith, un savant du Hadith, Sheikh Mokbel, rahimahullah. Et à son époque, il disait, ici, c'est-à-dire à l'Institut de Sheikh Mokbel, il dit ici, il y a une armée de shayatins. Il y a une armée de diables qui sont là. Et parmi leurs premiers buts, c'est de faire sortir les gens du Talab al-Ilm. C'est leur plat de résistance, ou leur dessert, comme vous voulez. Pour eux, c'est délicieux. Et croyez-moi, pourquoi je vous demande d'être vigilant? Croyez-moi, ils utilisent des stratagèmes que vous n'imaginez même pas. Et peut-être que si vous vous faites sortir, c'est 10 ans après, en réfléchissant, vous allez dire, subhanallah, à l'époque, eh ben, je m'étais fait avoir sur un truc, subhanallah, mais banal. mais tu t'étais fait avoir quand même. Alors faites très attention parce que il y a un pourcentage d'élèves à l'institut qui se sont fait avoir et qui sont sortis de l'institut. Il faut le savoir. Il y a des élèves qui sont sortis, se sont fait avoir. Alors voilà, c'est très important. Faites très attention. Il y aura des stratagèmes. Croyez pas, nous on est à l'institut, il y avait des stratagèmes que vous n'imaginez même pas. Subhanallah, mais tous les stratagèmes qui me sont tombés dessus pour que je sorte et que j'arrête d'étudier, vous n'imaginez même pas. Mais après, avec l'expérience, on acquiert une certaine expérience qui fait qu'on voit venir les choses. On voit venir les coups. Vous voyez ? Donc, il faut faire très, très, très attention. Soyez vigilants. Votre intérêt, c'est d'apprendre. Notre intérêt à tous, celui à qui Allah Ta'ala veut du bien, il lui fait comprendre la religion. À travers quoi ? À travers les cours, à travers les instituts, à travers le talab al-ilm. Maintenant, si tu arrêtes et tu te mets tout seul dans ton coin, tu vas être une brebis, comme le disent les ulama. Tu seras un petit mouton qui est tout seul et le loup. Si tu es avec le troupeau, le loup il aura plus de mal parce qu'il y a un berger avec le troupeau. Mais si tu es tout seul, eh ben, tu es le mouton tout seul, le loup il va faire un plat de résistance avec toi. Un plat de résistance. Donc faites attention et ne dites pas que ça arrive que aux autres. Ceux qui se sentent « non, moi c'est bon », attention, attention. Le stratagème peut venir de n'importe où, de n'importe où. Donc soyez vigilants, surtout comme dans un hadith, cela est mentionné dans un hadith, le croyant il se mêle que de ceux qui le regardent. Donc faites attention, des fois on veut intervenir dans des certaines choses qui nous concernent pas directement, etc. Et après, on se retrouve dans des machakils, par exemple. Et c'est pour ça que nous-mêmes, on n'entre pas dans les machakils. Parce qu'après, on est impliqué. Et ensuite, ça fait quoi ? Eh ben, ça fait des problèmes et ça fait un effet, comment on dit, un effet de boomerang ou un effet de... Mashallah, barakallahu fikoum. J'ai dit, subhanallah, les dalils, ils vont vite, hein. Le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, a dit, Allahi balak, parmi les signes de bonne appartenance de quelqu'un à l'islam, le fait de ne pas s'occuper de ceux qui ne le regardent pas. Plutôt le fait de ne pas s'occuper de ceux qui ne le regardent pas. De ne pas s'occuper de ceux qui ne le regardent pas. Je pense qu'il n'y aurait pas un problème de traduction, le fait de ne pas s'occuper de ceux qui ne le regardent pas. C'est plutôt le fait de ne pas s'occuper. Le fait de ne pas s'occuper de ce qui... Ah oui, pardon, oui. Non, c'est très bien. Afwan, afwan. Oh là là. Allah musta'an. Min husni l'islam, al mar'i tarku ma la yahni. Vous comprenez, il peut passer par là. Et c'est pour ça que c'est malheureux. Attention, c'est malheureux. Hein. Boule de neige, mashallah, mashallah. Mashallah, on peut dire ça. Mashallah. C'est pour ça que des fois c'est malheureux, mais vous apprendrez ça. Bon, pour ceux qui sont assez anciens, qui ont de l'expérience, je pense que. Et puis des fois, il y en a, ils peuvent être très jeunes aussi, avoir une grande expérience, vous apprendrez. C'est malheureux. Hein. Wallah, ça fait même mal au cœur, mais des fois. Et là, on arrive dans des règles de usulul fiqh, de regarder le méfait et de faire passer l'éloignement du méfait avant l'intérêt. C'est que des fois, on refusera d'aider quelqu'un ou on s'éloignera dans le fait d'aider quelqu'un parce que ça peut nous porter un gros préjudice. Vous comprenez ? Et des fois, c'est malheureux, mais il ne faudra pas aider quelqu'un. Donc, on ne dit pas qu'il ne faut pas aider les gens. Mais je pense que vous avez compris. Des fois, vous serez obligé de dire à quelqu'un, non, est-ce que tu peux te retourner vers quelqu'un d'autre ? Parce que je n'ai pas la capacité de t'aider parce que vous avez calculé que vous n'allez pas vous comprenez, ça veut dire bon, je pense que tout le monde a compris. En fait, j'essaye de vous éclaircir des certains points par lesquels les shayatines ils passent pour vous porter des coups fatals. Attention, hein, c'est un ennemi invisible. Quand nous, on est en train de dormir, lui, il travaille. Faites très, très, très attention. Je ne sais pas si je vous ai déjà donné l'exemple. Un jour, il y avait un frère, il était avec nous à l'Institut du Cheikh Mokbel. Et ce frère-là, tout d'un coup, alors moi, je le connais depuis longtemps, hein, il n'a jamais pensé à ça, ça lui a jamais... Bon, malgré que c'est tout à son honneur d'y penser, c'est que on a eu du mal à arriver à l'Institut de Chirmonbeul, ça a été dur, etc. C'est un des frères qui est parti à l'époque avec nous, avec sa famille, et tout d'un coup, en pleine étude, comme ça faisait 2 mois et quelques qu'il était là, tout d'un coup, il a eu des sueurs, je veux faire le Hajj, je veux faire le pèlerinage. Donc, il est parti voir le Cheikh à l'époque, et lui a demandé, Cheikh, est-ce qu'il m'est permis d'abandonner l'institut, de quitter l'institut pour aller faire le Hajj? Regardez ce que lui a répondu le Cheikh. Le Cheikh, il lui a répondu, Naam, il t'est permis de laisser l'institut. Mais tu devras impérativement revenir après ton Hajj. Le frère est parti au Hajj, il n'est jamais revenu. Alors, on a d'autres frères comme ça. Oui, je dois aller visiter ma famille. Oui, je dois. Le shaitan, un jour, il vous fait un wes-wes. Vous vous réveillez un matin avec un wes-wes et il n'y a rien à faire. Vous voulez partir. Mais quand vous êtes parti, c'est fini. Donc, vous comprenez, il faut faire très attention. Il y a des stratagèmes qui sont mis en place. Alors, on a... Je ne sais pas si c'est un frère qui essaie d'intégrer la Zoom avec comme nom Galaxy S9. Si oui, qu'il mette son nom, Barakallahu Fikoum, sinon on n'acceptera pas car nous ne savons pas qui c'est. Jazakumullahu Khair. Donc voilà, vous avez tous entendu le message. Si quelqu'un veut s'intégrer avec un sorte de nom pseudo. Ah d'accord, oui, c'est Zied. Donc tu peux l'intégrer, Akhi. C'est Zied, c'est le frère Zied. Barakallahu fik akhi. Taïb, on va entrer dans notre cours, même s'il ne reste pas énormément de temps, mais. Jazakallahu khair khayyam. Wayek akhi, Ilyas, wayek akhi. Alhamdulillah. Moi, ce que j'ai à dire pour conclure cette petite recommandation, ce conseil, c'est qu'en réalité, il peut se passer ce qui peut se passer, mais ceux qui sont toujours là, ce sont en réalité ceux qui sont les plus patients et ceux qui ont le plus de mérite. Ceux qui sont encore là, malgré la tempête, ou des machakils, ou des west-west, ou des attaques, en réalité, ce sont ceux qui ont beaucoup de mérite et, mashallah, ce sont les épreuves, on est testé. Donc, et il faut patienter sur cela, il faut patienter. Naam. Donc, Tayyib, alors, notre cours. Alors, on avait parlé dans le cours précédent, wa iyyakum. Donc, on avait parlé dans les cours précédents, il faut s'accrocher, Inch'Allah. On avait parlé dans les cours précédents, on avait commencé à parler de la sunna. On avait dit que dans le fiqh, il y avait 2 masadir principaux. D'ailleurs, on va poser la question, quelles sont les 2 sources principales dans le fiqh? Ahsanti, mashallah. Même moi, je pense, Allah ibarak, j'écrirai pas aussi vite. Qur'ani wa sunnah, très bien, très bonne réponse à vous. Kitab wa sunnah, ahsantum, très bonne réponse. Kitab wa sunnah. Donc, dans les cours précédents, on a beaucoup parlé du Qur'an. Et dans le dernier cours précédent, on a commencé à entrer dans le deuxième dans la deuxième source, qui est la sunna. La première source du fiqh, on sait que c'est le Coran. La deuxième source, c'est la sunna. Donc, on a expliqué dans d'autres cours, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a expliqué que le Coran, il vient expliquer la sunna, que, etc., tout le rapport entre le Coran et la sunna. On a expliqué ça dans des cours. Naham. Alors nous, on s'était arrêté à quelque chose d'important. Alors retenez bien. Ici, on va vous mentionner aujourd'hui des fondements de la législation qui ont pris, qui sont nés, si vous voulez, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En fait, on va vous expliquer, vous mentionner aujourd'hui, trois fondements importants de la législation. Ça fait partie du fiqh. Vous les connaissez, mais c'est très important de savoir que ça, c'est des fondements. C'est-à-dire que la religion, elle est basée sur ces fondements et elle tient sur ces fondements. Donc, il est important de les maîtriser, de les connaître. Tamam. قام التشريع على قام التشريع على ثلاثة أساس هي الأول. Alors le premier fondement à l'époque du prophète, et c'est également valable aujourd'hui, mais là on parle de l'époque du prophète, quand le fiqh il est né, il y a des fondements qui sont apparus du fiqh. Alors le premier dont on nous parle, c'est le fait que la religion, ce n'est pas, il n'y a pas de gêne dans la religion. Il n'y a pas de gêne. C'est-à-dire que la religion, comme on a déjà parlé, c'est la facilité, il n'y a pas de gêne. Al-awwal adam al-haraj. Tamam. Falaysa fi takalif al-shar'iyya shay' min al-haraj wa shadda. Alors, on entre dans l'explicatif, hein, le détail pour bien comprendre ce fondement. Il n'y a pas de gêne, de choses dures, de gênantes dans la religion. C'est-à-dire, on nous dit que dans les responsabilités, les charges qui incombent aux musulmans, donc ces responsabilités dans la législation, hein, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de difficulté, de dureté. ويدل على ذلك قول الله تعالى. Et comme vous le savez, hein, la méthodologie des gens de la sunna, comme vous le savez maintenant, c'est que c'est toujours suivi d'un dalil, d'une preuve. Et ça, c'est important. Retenez également les preuves. Retenez également les preuves. Hein. Surtout, j'insiste sur ça, il faut retenir, être capable de retenir les preuves. Alors, comme on a déjà expliqué dans des cours précédents, j'avais fait un petit rappel sur ça, important, il n'y a pas d'âge en réalité. Il est vrai que quelqu'un qui a 20 ans ou moins, ou beaucoup moins, il aura une mémoire comme une voiture neuve, si vous préférez. Et quelqu'un qui a de plus en plus avancé dans l'âge, il n'aura pas une mémoire toute neuve, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de mémoire. Parce que si sa mémoire, elle est mieux travaillée que celui qui a 20 ans, c'est un muscle, il est habitué, il l'a travaillé, etc., eh ben, il peut faire plus il peut se servir plus, sa mémoire peut être plus performante. Donc, il n'y a pas d'âge. Et c'est pour ça que je demande à tout le monde, essayez de retenir les... Alors après, attention. Là, c'est de la faïda, hein. Même si on est sorti un petit peu de la définition du dalil que je voulais vous donner dans le kitab, ça n'en reste pas moins des grosses fawaïdes que je vous donne. Faites attention également. Le talibul ilm, c'est pour ça qu'on est encore dans un stratagème du shaitan. Je vous le dis et je vous préviens encore. Si vous êtes dans des problèmes, quels qu'ils soient, ça va vous manger votre mémoire, votre concentration, sur votre talibul ilm. Pendant un moment, quand j'étais à l'institut de Cheikh Mokbel, les frères, ils venaient frapper à ma porte. Achi, tu peux venir, Achi, tu peux venir, faut témoigner, il y a des problèmes. Un jour, j'ai mis un mot sur la porte. J'ouvrais même plus la porte. J'ouvrais même plus la porte. Arrêtez, les frères, arrêtez. Il faut toujours aller s'asseoir, il faut toujours aller témoigner, il faut toujours aller. Et c'est quand qu'on étudie? Les frères, ils étaient que dans les problèmes. L'autre, il a dit ça sur moi, l'autre, il a fait ça, l'autre. Regardez le shaitan, comment il les a baladés. L'autre, il nous crée des problèmes, l'autre. Il... T'occupe pas des autres. T'occupe pas des autres. Étudie, étudie. Il y a des endroits où ils sont en guerre dans leur pays, ils étudient. Ils sont malades. Ils n'ont rien à manger et ils sont quand même là à étudier. Naam. Faïb. Donc, comme on a dit, la méthodologie des gens de la Sunna, c'est de donner des preuves. C'est de donner des preuves. Alors, la preuve, le verset du Coran sur le fait que la religion, ce n'est pas al-haraj, c'est-à-dire il n'y a pas de gêne. C'est un fondement que la religion ne contient pas de gêne et ne contient pas de dureté, etc. C'est la parole d'Allah Ta'ala qui nous dit « Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ». Ils se sont trompés, ils ont oublié une lettre dans mon verset ici. « Al-yusra ». Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Ça, c'est un premier dalil. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير النبي عليه الصلاة والسلام ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار الأيسرها أو أيسرهما ولم يأثم. Alors, il y a un hadith de عائشة رضي الله عنها également qui nous dit عائشة رضي الله عنها a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il avait le choix entre deux affaires, deux choses, il a toujours choisi la plus facile, la plus simple. Celle qui est la plus simple. Et celle qui contenait également aucun péché. Parce que lorsqu'elle contenait un péché, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il éloignait cette chose-là. Donc ce hadith, il est muttafaqun alayhi, Bukhari wa Muslim. Wa man nadhara fi taklifat shar'iyya wajada annaha rawa'i fi taysir 'ala al-ibad. Donc ensuite on nous dit celui qui va regarder, il va méditer sur la législation, les charges, hein, responsabilité dans la législation par rapport aux adorateurs, aux serviteurs. Il va trouver qu'en réalité, c'est la facilité pour les serviteurs. C'est la facilité. Barakallahu fikum pour les sources, les dalils. Al-adillah. C'est la facilité, la religion. Il va trouver ça. Et ça, sachez que c'est un fondement. Wa min zalika at-takhfif. Et également, l'allègement pour celui. Regardez la facilité dans la religion. Il y a l'allègement pour celui qui n'est pas capable de pratiquer certaines choses, comme par exemple se lever pour la prière, il peut s'asseoir, également la permission de manger, de rompre le jeûne pour le jeûneur, pour celui qui ne peut pas. وَقَدْ اسْتَقَرَّ الْفُقَهَا أَسْبَبَ التَّخْفِيفِ فِي الشَّرِيعَةِ فَوَجَدُوهَا سَبَعَ أَنْوَارٍ. Subhanallah, regardez ce qu'on nous dit. C'est important quand même de connaître ça, c'est du ilm. On nous dit ici, les savants, les juristes, du fiqh, ont parcouru les causes d'allègement dans la législation. Ils ont parcouru le Kitab wa Sunna, ils ont cherché donc les causes d'allègement dans la législation. Et là, on nous dit ici, ils ont trouvé que ces causes étaient de sept genres, Sabat Anwar. Sabat Anwar. Alors regardez. En gros, c'est-à-dire les causes pour lesquelles la législation a été allégée. Où il y a un allègement dans la législation. On va vous. On va vous citer les différents genres deux cas où la législation, elle est facilitée. Alors, le premier, c'est le voyage. On nous dit, le premier, c'est le voyage. Celui où il a été permis de réduire la prière ou de retarder le jeûne ou même le fait de essuyer al-mashin al-khufayn ou sur les chaussettes, essuyer plus de 24 heures, c'est-à-dire une durée plus longue. Ça, c'est la première cause d'allègement, le voyage. Deuxième cause d'allègement, on nous dit la maladie. Il a été également dans l'islam, dans la législation islamique, permis, donc Allah Ta'ala a attribué la permission, beaucoup de permissions pour faire les ablutions sèches, tayammum. Lorsqu'on a peur, par exemple, d'utiliser l'eau parce qu'elle peut augmenter la maladie ou alors elle peut retarder la guérison. Ou alors, il y a la permission également, lorsqu'on est malade, de s'asseoir pour les prières qui sont obligatoires. Alors qu'en temps normal, on ne peut pas s'asseoir pour une prière obligatoire, mais on peut s'asseoir pour une prière surérogatoire. Naham. Ça, c'était la deuxième cause d'allègement. La première, donc, le voyage. La deuxième, la maladie. La troisième, la contrainte. La contrainte. Alors, est-ce que vous savez tous ce qu'est la contrainte ? La contrainte, c'est lorsqu'on vous force à faire quelque chose contre votre gré. À faire, à dire, à reconnaître quelque chose. Alors, on nous dit également ici, il a été permis, la permission, de prononcer des paroles de mécréance tout en étant serein dans son cœur avec une foi ferme. Il a été permis, sous la contrainte, de prononcer des paroles de mécréance. Est-ce que tout le monde a compris ici ce que, si une personne n'a pas compris, qu'elle demande, Inch'Allah, Ta'ala. Parce que ça, on n'est pas forcé de tous comprendre du premier coup. Très bien, tout le monde a compris. Dans la, ça signifie que dans la contrainte, vous êtes torturé. On vous attrape, les kofars, pendant la guerre ou autre, vous êtes torturé ou quoi que ce soit, vous avez droit de leur dire ce qu'ils veulent entendre, mais juste par la langue. Dans votre cœur, vous ne reconnaissez pas ce que vous dites. Vous dites juste ce qu'ils veulent entendre, même si c'est du polythéisme ou du chef. Vous dites juste ce qu'ils veulent entendre pour vous débarrasser d'eux. Attention, sachez qu'il y a un verset du Coran, il n'est pas mentionné ici. Mais moi, je vous le dis, il y a un verset du Coran, illa man ukriya wa, sauf celui qui est sous, Allah Ta'ala dit sauf celui qui est sous la contrainte et dont le cœur est mutma'in qalb. Quand même, son cœur est serein. Il y a un verset du Coran. Également, que voulais-je dire à ce propos, l'ikra, la contrainte, Naham, ce sera tout. Ah oui, non, je me souviens. J'ai également une autre faïda, vous mentionnez à ce propos. Il faut savoir, attention, que les ulama disent qu'il est permis de leur dire ce qu'ils veulent entendre lorsqu'on est torturé ou on est sous la contrainte. Mais attention, il est préférable, c'est mustahab, pas obligatoire. Mais il est préférable de ne pas leur dire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire de ne pas leur dire ce qu'ils veulent entendre. C'est préférable. En effet, interdit la charia, la bête morte, le sang, la chair de porc et la bête laquelle un autre nom que celui qu'Allah a été invoqué, mais quiconque en mange sous contrainte est ni rebelle ni transgresseur, alors Allah est pardonneur miséricordieux. En effet, il faut que je le lise en arabe, je ne suis pas sûr que c'est ce verset, il faut que je le lise en arabe. Mais comme le chat il fait des siennes, hein, j'arrive jamais à... Pardonnez-moi quelques temps de mettre ça en grand, ça ne veut pas venir, c'est pas grave. Innama harrama alaykum maytata والدم ولحم الخنزير نعم سورة البقرة نعرف ولا لا الخنزير وما أهل لغير الله به فمن يضطر غير بعين ولا عاد فإن الله غفور رحيم c'est pas celui-là le verset بارك الله فيك en tout cas pour les efforts ça n'est pas celui-là malheureusement je n'ai pas le numéro je le connais de tête comme ça vous pouvez taper par exemple le verset de la contrainte. Bon, ça peut vous sortir aussi la ikraha fid din, pas de contrainte en religion, mais c'est pas ça le verset. Mais ça n'est pas grave. Alors la faïda, c'est bon, on l'a donné. Cinquième cause, on a une cinquième et une sixième également et une septième. Cinquième cause pour laquelle genre où la religion a été facilitée. Il y a la permission, c'est l'ignorance. Par exemple, celui qui ignore qu'on est entré dans le jour et qui pense qu'on est encore dans la nuit. Attention, hein, ce sont des fondements importants dans la jurisprudence qui vont vous aider beaucoup. Hein. Regardez par exemple, est-ce que beaucoup de gens savent cette règle ici ? L'ignorance. Il y a la permission de l'ignorance. Si une personne est ignorante que la journée, le jour, il est entré. Il ne sait pas que c'est le jour, là. Il croit qu'il est encore la nuit. Et il continue à manger. Il continue à manger pendant le ramadan, par exemple. Il continue à manger, il ne sait pas. Alors, je ne sais pas, peut-être il habite dans une maison où il a fermé les stores, c'est tout noir, il n'a pas fait attention dehors. C'est un exemple, hein, je ne sais pas. Hein. Lui, il est excusé par l'ignorance. Lui, il est quiconque mécroit en Allah après avoir eu la foi. Sauf celui qui est contraint alors que son cœur est rassuré sur la foi. Ahsan, très bien, c'est celui-là le verset. Naam, c'est celui-là le verset. Masha'Allah, c'est celui-là. Donc c'est bien parce que les élèves se complètent. Barakallahu fikum pour vos efforts. Barakallahu fikum. Tamam, jayid. Jayid jiddan. J'ai pas suivi la quatrième, cher professeur. Pas de souci, Nadir. La quatrième, oh subhanallah. Tu m'as fait un bon rappel parce que je ne l'ai pas dit, la quatrième, je l'ai sauté. Allah al-Musta'an. Barakallahu fik, mashallah. Oui, c'est. Excusez-moi, j'ai sauté la quatrième. J'ai sauté la quatrième. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Ça prouve que, mashallah, il y avait beaucoup de frères. Hein. Mohamed, papa, Nadir, les sœurs aussi. Merci à vous parce que ça prouve que vous suivez. Très bien. Vous voyez, ça peut arriver, hein, j'ai sauté une ligne. Alors la quatrième, c'est l'oubli. Vous savez bien que Allah Ta'ala, donc les dalils, ils sont pas mentionnés ici. Hein, c'est moi qui vous donne des preuves dans le Coran. Hein. Ici, on n'a que la règle, hein, y a pas les preuves, mais vous savez bien qu'Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Subhanallah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. La traduction rapprochée du sens. Hein. Oh Allah, ne nous tient pas rapprochée du sens, ne nous tient pas rigueur sur la تؤاخذنا, sur ce que nous avons oublié, نسينا أو أخطأنا. La تؤاخذنا, sur ce que nous avons oublié ou ce sur quoi nous avons fait erreur, etc. Donc vous voyez bien que l'oubli est une excuse. Donc le quatrième genre, hein, c'est l'oubli. وَمَنْ رَخَسَهُ رَفَعَ الْإِثْمَ بِسَبَبِهِ. Donc, on nous dit la règle, c'est quoi ? C'est qu'il y a la permission de lever le péché. Hein, pour c'est une cause de lever de péché. Pour celui qui ne savait pas, qui est ignorant. Il n'a pas de péché, celui qui ne savait pas, il était ignorant. Alors on nous dit, a-t-on un exemple, un nissien, par exemple, ou Adam Fitr, lahu akr au sharab nassien. Par exemple, quelqu'un qui a oublié, bon, Mouhim, oublié, hein, il y a plusieurs cas. Al-Khamis, le cinquième, al-Jahl. Al-Jahl. Le cinquième, c'est l'ignorance. L'ignorance. comme celui, on l'a dit hein, ça déjà, comme celui qui est ignorant, est-ce que il pense que c'est encore le jour, il est ignorant que la nuit elle est entrée, et il continue à manger jusqu'au jusqu'à Tulu' al-Nahar, hein, jusqu'à la fin de la journée. Ensuite, on a le sixième. On avait dit qu'il y en avait sept au début. Hein. Ensuite, on a le sixième. Alors, al-usr wa humum al-bulu kas-salat ma'a najasa ma'fu 'anha wa mas al-mushaf للصبيان للتعليم وهذا السبب يعتبر من أهم الأسباب وأهمها لترخيص بل إن أحكم الشرع كلهم. Le sixième, c'est la facilité. Les permissions qui sont données, octroyées dans des cas de facilité. Alors qu'à la base, normalement, non, il ne faut pas le faire. Comme par exemple, une personne qui a fait la prière alors qu'il avait une najasa sur lui, des vêtements, les chaussures. Mais c'est une personne qui a une excuse. Qui a une excuse. Il y a des excuses valables, hein, le fait de ne pas savoir, le fait d'avoir oublié, le fait de se rappeler pendant la salat, mais on n'a pas la possibilité de la nettoyer. Les ulama, ils disent, la salat, elle n'est pas invalide. On nous donne un autre exemple, par exemple, le fait de prendre le Qur'an, le mashaf, l'issibien, l'ittalim. Que les petits prennent le Coran pour l'apprentissage. Donc ça, il n'est pas explicatif, hein, ce là que je médite dessus. De toucher le mushaf pour les enfants, pour la, comment on appelle ça, l'apprentissage. Je pense qu'ils parlent de l'odo, hein, ils n'ont pas l'odo, etc., les enfants, et ils ont la permission de toucher le Coran. Wallahu a'lam, hein, je pensais ça, mais je n'ai pas plus de détails. Alors, Cheikh Abd al-Rahman al-Sa'di avait dit dans un vers de poésie, cela, l'erreur est tout ce qui a été fait sous contrainte ainsi que l'oubli, notre adoré, le tout miséricordieux, les a effacés. Mashallah, barakallahu fik. Barakallahu fik. Tamam. Wa hadha as-sabab ya'tabar min a'am al-asbab. وأهمها للترخيص بل إن أحكم الشرع كلها مبنية على التخفيف لذلك السبب. Donc il faut savoir, c'est très important. Pourquoi dans ce cours aujourd'hui on a parlé de ça? Parce qu'on nous dit, pour terminer, hein, subhanallah, on n'a pas cité le septième. السابع النقص. Ah, on n'a pas cité le septième. C'est le sixième qu'on vient de citer. Donc le septième, c'est comment dirais-je, par rapport au manquement et aux diminutions. On va donner un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Hein. La permission qui est donnée par rapport à ceux qui ont des manquements ou qui sont impuissants, par exemple, qui est une cause pour les enfants. Les enfants, les petits-enfants, qui ne sont pas responsables. Pourquoi? Parce qu'ils ont du manque, ils sont impuissants. Donc, ils ne sont pas, ils n'ont pas de charge, ils ne sont pas responsables jusqu'à la puberté. Également, le fou, qui lui, a un manque dans quoi? Dans la raison. Donc, on nous dit que tout ça, ce sont des fondements dans la législation sur lesquels beaucoup de règles sont basées. Donc, c'est bien de les connaître et d'en tenir compte. Tamam? Naam. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va se contenter de ça pour aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, dans le prochain cours, on ne fera pas d'introduction et on enchaînera directement. On essaiera d'avancer dans le livre, Inch'Allah ta'ala. Naam, Akhi Mohamed, ils ne sont pas des mukallaf. Tout à fait. Cheikh, désolé, je n'ai pas compris le premier exemple de la prière avec les vêtements concernant la facilité. Comment comprendre le hadith de celui qui a sacrifié la mouche et est entré en enfer? Il ne l'a pas fait sous la contrainte. celui qui a sacrifié la mouche et qui est entré en enfer, d'un certain côté, s'il a été contraint. D'un certain côté, il a été contraint, puisque la règle, Hakim, on va, excuse-moi, oui, je vais y arriver, Inch'Allah, Hakim, à ta question. Parce qu'en fait, s'il a été contraint, puisque les associateurs qui faisaient barrage dans un passage qui leur appartenait, ils disaient, chaque personne qui passe, elle doit exécuter, elle doit sacrifier pour notre idole ou nos statues, etc., nos divinités. Sinon, elle est exécutée. C'est de la contrainte, ça. Sinon, elle est exécutée. Et celui qui ne l'a pas fait, il a bien été exécuté. Donc, il y avait la sanction de l'exécution au-dessus de sa tête. Naham. Donc, quelque part, il a été sur la contrainte. Ça, c'est un premier fait. Et le deuxième fait, c'est que comment comprendre ce hadith? Eh bien, il faut la faïda de ce hadith, les savants disent, c'est que le shirk, il n'a pas de quantité. Les savants, ils disent parmi les fawaïdes, hein, parmi les fawaïdes de ce hadith, c'est que le polythéisme, il n'a pas de quantité. Regardez, juste une petite mouche, il est rentré en enfer. Ce n'est pas une question de quantité, d'avoir des 300 divinités, fausses divinités, ou une mouche, il est rentré en enfer. Alors, Hakim, cher, il n'y a pas à être désolé ou à s'excuser, on est là pour ça, il n'y a aucun souci, Akhi. Compris le premier exemple de la prière avec les vêtements concernant la facilité. En fait, on avait dit que concernant les vêtements, il y a, par exemple, il y a des gens, on sait qu'à la base, on ne doit pas prier avec une impureté, Najasa. Mais l'autorisation, elle a été donnée, autorisation exceptionnelle, comme quoi la religion est facilitée. Des fois, il y a des gens, ils sont dans des cas où ils viennent de se rappeler qu'ils avaient marché quelque part ou qu'ils avaient une najasa sur le vêtement ou dans les chaussures ou quoi que ce soit. Et là, il y a la permission de, par exemple, que sa prière n'est pas invalide ou qu'il peut continuer la prière, etc. Il y a plein de choses comme ça. Donc là, c'est l'exemple qui nous a été donné. C'est-à-dire que, ou alors quelqu'un qui a prié avec la najasa, il s'en est rappelé après la salat, il ne savait pas. Là, il y a la facilité dans la religion. Naham, il y a la facilité dans la religion. Amin à vous aussi, qu'Allah vous récompense pour la justesse dans vos paroles et bien pesée, car la parole est comme une flèche dont son retour n'est pas possible. Jazakum Allah khair pour ces cours, qu'Allah facilite l'application pour tous. Amin à vous aussi, à vous aussi. On fait très attention justement à nos paroles, on fait très attention. On fait très attention à ce qu'on dit, à nos paroles, à comment on se comporte avec les autres. Et n'hésitez jamais à venir demander explication s'il y a malentendu, s'il y a... Nous, on cherche que le khair de tout le monde et voilà. Est-ce qu'un jour, si vous avez le temps, vous pouvez nous faire une biographie de Cheikh Mokbel, s'il vous plaît? Inch'Allah, avec plaisir. Inch'Allah, il me semble même que j'ai un kitab ici, dans la maktaba. Il me semble, subhanallah, je crois... que j'ai un kitab de... Je vais chercher, je l'ai là, quelque part, la biographie de Cheikh Mokbel. Avec plaisir, Inch'Allah Ta'ala. On va choisir un jour et on fera la biographie, Inch'Allah Ta'ala. Et concernant la justesse dans les paroles, on peut pas être un talib ou l'ilm, on peut pas être un prêcheur, on peut pas être... si on n'est pas juste. Si on n'est pas juste. Allah Ta'ala nous dit, « Iza qultum fa'adilu » Et lorsque vous dites... c'est-à-dire lorsque vous parlez, vous témoignez et autres, soyez juste. Et même si c'est envers des proches parmi vous, il faut être juste. Une fois, je me souviens, on va terminer sur ça, vous m'excuserez. Une fois, je me souviens, à l'Institut de Cheikh Mokbel, je suis parti aider un frère qui était convoqué à une assise où il y avait plein de frères, il lui cherchait des problèmes et il était convoqué devant le shir et ils allaient tous faire des faux témoignages sur lui. Donc, et c'est là que je vous ai dit, des fois, il faut réfléchir à deux fois avant d'aider quelqu'un, parce que c'est vrai que ça m'a coûté très cher, mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'avoir aidé ce frère, il était tout seul, le pauvre, et 40 frères en face de lui, juste parce qu'il avait fait une quête en France. Miskin, c'était un frère d'un pays d'Afrique et il était en difficulté. Il connaissait un frère de France. Il lui a dit, voilà, est-ce que... Ou peut-être c'était le frère de France qui lui a proposé pour faire une quête. Et lui, il n'a pas dit non. Mais malheureusement, il y avait un monopole de certains frères de France. Les quêtes, c'est eux. Et si tu rentres dans le terrain, comme on dit, eh ben, c'est la guerre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont convoqué une assise avec le Cheikh. Et ils étaient 40 à témoigner. Il y a des gens qui étaient là pour témoigner contre lui. Ils ne le connaissaient même pas. Donc moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit, je vais venir avec toi, Inch'Allah. Je vais venir avec toi. Et on était deux contre une quarantaine. Il y a un autre frère, un converti que j'aimais beaucoup, qui a dit, moi, si Abdelkalim il y va, je viens. Donc on était trois. Il est venu juste, Mashallah, il m'aimait bien, etc. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je vous raconte ça? Ah oui, c'est parce qu'à un moment, malgré que j'étais venu témoigner pour le frère en question, il y a un frère qui m'a regardé et qui m'a dit, Abdelkalim, n'est-ce pas vrai que le frère que tu défends là, il a déjà dit telle et telle et telle chose? Donc en fait, le frère, il avait dit, moi je suis, et c'était vrai, hein, je suis très proche du shir, je peux influencer le shir, je suis très proche du shir, etc. Mais il ne l'avait pas dit dans un sens péjoratif, mais eux, ils s'en sont servis. Donc, ils m'ont posé la question, Abdelkalim, est-ce que c'est vrai qu'il n'a pas dit ça une fois? Et moi, malgré que j'aimais beaucoup le frère, etc., etc., devant 40 personnes avec qui je n'étais pas d'accord du monde, etc., j'étais bien obligé de dire la vérité. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un temps de réflexion où je me suis arrêté, j'ai réfléchi. En fait, pour être sûr qu'il l'ait dit ou qu'il ne l'ait pas dit, pour ne pas faire un faux témoignage. Et après un tout petit temps de réflexion, j'ai dit, oui, c'est vrai, il l'a dit. C'est vrai qu'il l'a dit. Et les frères, ensuite, ont dit, lorsque certains sont partis les voir, Abdelkalim, il regardait, il a quand même dit, il avait fait il a dit la vérité, tout ça. Ils ont dit, ouais, mais quand même, il a mis du temps à répondre. Allah Musta'an. C'est grave quand même que les étudiants en sciences puissent faire des faux témoignages. Allah Musta'an, si vous saviez. Si vous saviez, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup à l'Institut sur le comportement, parce que j'ai une expérience dans les histoires, un talabérim, moi je veux former des étudiants ou même des gens qui viennent s'asseoir avec nous à pas être comme des gens que j'ai vus. Wallah, vous n'y croiriez pas vos yeux, vos oreilles plutôt, vous n'en croiriez pas vos oreilles. Incroyable. Je fais très attention à ça, c'est parce que j'ai un grand vécu dans des choses incroyables. Incroyable, je ne sais même pas comment vous dire. Que je ne veux pas que les gens, les tolab al-ilm, il ne faut pas être comme ça. Il faut être véridique, il ne faut pas être comme ça. Wallah al-musta'an. Il y a des gens, ils ont fait des choses incroyables. Wallahu al-musta'an wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. On se retrouve pour le cours de Aqida du dogme, inshallah ta'ala. Donc comme on a pris du temps sur ce cours ici, 5, 10, 15, 20, ça sera vers 35, inshallah ta'ala, à peu près vers 35. En tout cas, barakallahu fikum wa hayakum Allah, et qu'Allah vous récompense et vous donne la science utile, les œuvres acceptées, al-ilm an-nafi' wal-amal salih, les œuvres vertueuses, et également wal-amal mutaqabbala, et les œuvres acceptées, et qu'Allah guérisse tous nos frères et nos sœurs qui sont malades. Naam, amin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين وحياكم الله لطاعته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.